Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute! L'épisode vous est proposé en partenariat avec Ecosia, le moteur de recherche éco-responsable qui reverse 100% des bénéfices à l'Action pour le climat, dont 80% pour financer des projets de reforestation situés dans des zones critiques de biodiversité. Pourquoi vous parlez d'Ecosia ? Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Dans ce podcast, on parle d'initiatives qui contribuent à un monde meilleur. Donc si vous cherchez une idée de geste green toute simple à mettre en place et qui a un impact concret, pensez à Ecosia. Toutes les 45 recherches, c'est un arbre qui est planté. Allez simplement sur Ecosia, ecosia.org, et mettez-le en moteur de recherche favori ou installez-le sur votre smartphone. Et en plus, c'est gratuit. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de Communautaire, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Darmé, cofondatrice de Hop Hop Hop, un service de colis réutilisables et consignés dont la mission est de réduire l'impact écologique du e-commerce. Bonjour Charlotte, tu vas bien ?
Bonjour Pauline, très bien et toi ?
Très bien, merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'emballage responsable, d'éco-conception, d'éco-sourcing, mais aussi du rôle des consommateurs dans leur acte d'achat, afin de répondre à la question suivante : en quoi le e-commerce peut être un accélérateur de consommation responsable ? Pour commencer, Charlotte, peux-tu te présenter ?
Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Charlotte, j'ai 29 ans et je suis la cofondatrice d'Hop Hop Hop, comme tu l'as bien dit. J'habite à Paris pour l'instant, mais je déménage à Lyon à partir de janvier, tout comme Hop Hop Hop. Voilà, et je suis passionnée par les sujets d'éco-conception, de consommation responsable en général et d'entreprise à impact.
Très bien, alors peux-tu nous présenter l'activité d'Hop Hop Hop ?
Oui, bien sûr. Donc Hop Hop Hop, ça part du constat que le e-commerce est très générateur de déchets. Avec Antonin, mon cofondateur, on a travaillé tous les deux dans le e-commerce. Moi, j'étais acheteuse packaging et lui, il était côté tech, développeur et consultant en nouvelles technologies. Et en fait, on s'est rendu compte que le e-commerce était un super outil, mais qu'aujourd'hui, il était très générateur de déchets, entre autres. Et donc, on a décidé d'agir sur ce sujet et on a créé un colis qui est réutilisable et consigné. Donc en fait, très simplement, on applique le système de la consigne qui est en train de revenir dans les boutiques, notamment en vrac, au e-commerce. Et donc, c'est un service de colis réutilisables à destination des e-commerçants. Donc, le e-commerçant propose l'option sur son site et les consommateurs ont le choix de se faire livrer en colis zéro déchet. Et en fait, à la fin de leur commande, au lieu de jeter l'emballage comme on fait aujourd'hui, il va être renvoyé dans n'importe quelle boîte jaune de la poste gratuitement parce qu'on a une étiquette prépayée sur le colis. Et donc ça permet au colis de revenir chez nous, d'être nettoyé, préparé pour un nouveau cycle avant d'être renvoyé chez un nouveau e-commerçant, de nouveau chez un e-commerçant, pour être réutilisé. Voilà, on circularise l'emballage e-commerce.
Oui, d'autant plus qu'il y a des chiffres qui sont assez alarmants sur la durée de vie d'un colis une fois qu'il est reçu chez le consommateur.
Bah exactement, on estime qu'entre le moment où le colis part de chez le e-commerçant, donc il sort de sa palette, jusqu'au moment où il finit à la poubelle, il y a 3-4 jours.
Donc okay. Un colis à usage unique pour quelques jours à peine.
Alors après, il y en a certains qui réutilisent pour Vinted ou pour des usages personnels, mais c'est minime par rapport à la masse. Pour vous donner une idée, en 2020, il y a eu presque 1,5 milliard de colis qui ont été expédiés. Juste en France. Donc c'est autant de déchets qui ont fini à la poubelle après une seule utilisation. Et là, nous, on parle de l'emballage colis, mais il y a aussi, on peut penser au scotch, à tout ce qui est calage, les rembourrages. Enfin, voilà,
Oui, tous les polybags et plastiques qui sont à l'intérieur du colis même.
Exactement. Ça, c'est encore un autre sujet.
Et donc, c'est en ça qu'il y a une vraie différence entre la réutilisation et la consigne. Parce que ça permet simplement le fait de dire le carton, il peut être réutilisé pour un autre usage à fin privée, mais c'est de dire non, en fait, il est consigné parce qu'en fait, il est renvoyé chez Hop 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 et repart chez d'autres e-commerçants.
Exactement. Bah, en fait, la consigne pour nous, c'est une dimension essentielle du colis réutilisable, enfin du réemploi de manière générale. Parce que un emballage réutilisable qui n'est pas vraiment réutilisé, il n'a pas un meilleur impact qu'un emballage jetable recyclé. Ce qui fait l'impact positif, c'est la réutilisation réelle. Donc nous, aujourd'hui, avec notre système de consigne digitale, on est les seuls sur le marché à proposer ce système de consigne. Il est ultra efficace, on a 97% de taux de retour.
C'est énorme.
Et donc c'est énorme. Et ça, ça permet vraiment au colis de faire un maximum de tours. Parce que c'est 97% de taux de retour à chaque cycle. Donc c'est vraiment important que les colis ne soient pas perdus et soient vraiment réutilisés.
Et du coup, tu as un système d'incitation pour les consommateurs à renvoyer leurs colis ?
Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez commander sur le site du e-commerçant et cocher l'option Hop Hop Hop, à la fin de votre achat, vous allez recevoir un mail en même temps que votre mail de confirmation de commande qui vous propose de valider votre consigne Hop Hop Hop. La consigne Hop Hop Hop, c'est un peu une caution. C'est comme les Vélib ou les Vélov, il y a une caution qui n'est pas débitée. En revanche, si on ne rend pas le vélo, la caution est débitée. Ben, nous, c'est pareil. Si vous ne rendez pas votre colis sous 15 jours, il y a la consigne de 5 euros qui est débitée. Entre-temps, on a aussi un système de relance. On rappelle au consommateur qu'il faut bien renvoyer son colis. Et en fait, notre système de consigne, évidemment, l'incitation financière, c'est un booster pour booster le retour, mais ce qui a aussi de la valeur, c'est tout l'accompagnement du consommateur. C'est-à-dire qu'on lui envoie du rappel, on lui dit où renvoyer son colis. En fait, on l'accompagne dans son geste zéro déchet.
En revanche, au moment de la commande, j'ai du mal à se dire pourquoi ça reste une option pour le consommateur. Pourquoi finalement ça ne devrait pas juste être, vu que vous proposez cette solution avec le e-commerçant, pourquoi ça ne devrait pas juste être une évidence ?
Parce que c'est justement cette question du taux de retour. Si on a un consommateur qui n'a pas choisi de se faire livrer en colis réutilisable et qui n'est donc pas prêt à faire le retour, en fait, les chances que le colis ne soit pas réutilisé sont plus grandes. Donc on laisse aujourd'hui ouvert cette possibilité-là parce que c'est pas encore une normalité. C'est un peu l'histoire des tote bags dans les
magasins.
Dans les magasins. Jusqu'au moment où on est arrivé à l'interdiction des sacs plastiques et maintenant les sacs papier sont vendus, en fait avant c'était un peu au bon vouloir du consommateur, c'est le début. Nous ce qu'on imagine c'est que ça va devenir la norme et donc que ce sera de plus en plus obligatoire, en tout cas que le pourcentage de gens qui choisissent l'option sera de plus en plus important. Mais pour l'instant, pour la bonne marche du système et pour encore une fois garantir la réutilisation, on les laisse en option.
Et en revanche, est-ce que c'est pas moins impactant, donc d'un point de vue carbone, de faire appel à un colis Hop 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 qui soit peut-être pas remis dans la boîte aux lettres et donc remis dans un circuit de consommation par rapport à un carton à usage unique, parce que du coup les colis que vous utilisez vous, ils sont déjà éco-conçus, non ?
Ouais, bien sûr. Un colis Hop Hop Hop, en fait ça dépend du nombre d'utilisations qu'a eu le colis avant. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que un colis réutilisable, mais c'est valable avec tous les sujets de réemploi, il a le produit qui est amené à être réutilisé un grand nombre de fois, il a une sorte de coût d'impact de production qui est plus important qu'un carton. En revanche, c'est pas au fur et à mesure, sur une même utilisation, sur 30 utilisations par exemple, on va pas faire 30 fois le coût de production initial et son recyclage, comme on pourrait le faire avec du carton. Là, on va le faire une fois, une sorte de gros coût de production, de coût d'impact, je veux dire, et ensuite, c'est amorti au fur et à mesure des utilisations. Donc, un colis Hop Hop Hop, nous on est en train de finaliser une étude d'impact en ce moment, il a une bien meilleure performance que le carton au bout de, à partir de 3 tours, c'est ce qu'on a estimé pour l'instant.
Ouais, d'où l'importance.
D'où l'importance du retour, exactement. Et donc, c'est pour ça que quand on dit qu'un emballage est réutilisable X fois, que ce soit un bento, une gourde ou un tote bag, en fait, il faut vraiment le réutiliser pour qu'il ait vraiment un impact.
Et les colis au pop-up, en l'occurrence, ils sont réutilisables 50, 100 fois
Après, le chiffre qui nous intéresse, c'est le nombre de réutilisations réelles. Donc, avec aujourd'hui, si on part sur, admettons, 95% de taux de retour, nous, on est à 97% aujourd'hui, donc c'est pour simplifier, ça veut dire qu'il va être utilisé 15 fois, le colis.
Et aujourd'hui, vous avez déjà pu mesurer ?
Alors, on est trop jeune pour arriver jusqu'aux 15 utilisations. Mais oui, nos colis, ils reviennent bien.
Oui, parce que Hop Hop Hop, ça a été créé il y a 2 ans.
Ouais, exactement. On a envoyé nos premiers colis juste après le premier confinement, donc en mai 2020. Et nos colis, pour revenir sur l'éco-conception, effectivement, ils sont éco-conçus. Donc aujourd'hui, on a des colis qui sont pensés pour leur usage. Ils sont pensés pour être solides, pour tenir un grand nombre d'utilisations. Et ils sont faits à partir de matières upcyclées. Donc, en fait, on récupère des matières qui sont des fins de rouleau ou des stocks perdus de l'industrie textile, du textile imperméable. Un peu, vous voyez, c'est une matière qui ressemble un peu à un trench. Donc, déperlant, imperméable et quand même très solide. Donc, c'est des matières techniques solides qui sont très légères, encore une fois très solides, déperlantes et qui sont issues de l'upcycling. Donc, en fait, on ne produit pas de nouvelles matières pour faire nos colis. Et ils sont fabriqués en France. Donc, on a des circuits de production qui sont très optimisés. C'est-à-dire qu'on récupère la matière en France et on produit en France. Donc, on va assez loin dans l'éco-conception. Après, voilà, on pourrait parler un peu plus d'éco-conception encore. On est sur du monomatière, donc c'est très facile à démonter pour le recycler. On a des circuits de recyclage pour chacun des éléments. Enfin, voilà. En tout cas, ils sont pensés pour, une fois arrivés en fin de vie, être traités et pas finir dans la nature, quoi.
Oui, donc l'upcycling, c'est faire du neuf à partir du vieux. Et en effet, plus la matière principale est monomatière, plus il est facile de la recycler ensuite. Et alors, quels sont les clients de Pop-Up ?
Alors aujourd'hui, on travaille avec une cinquantaine de marques e-commerce, surtout des marques éco-responsables.
Oui, qui sont déjà engagées dans la démarche.
Exactement, qui sont les premiers demandeurs sur le sujet et qui sont très actifs et très réactifs, notamment sur ces sujets-là. Et on discute avec des plus grosses marques, chez qui c'est un peu plus long, de mettre en place ce genre d'innovation. Donc voilà, vous pouvez les retrouver sur notre site hopopop.co. Mais pour en citer quelques-unes, il y a par exemple les Jupons Louison, Laine Paysanne, qui sont deux marques qui recréent des filières textiles en France. On a aussi sur les cosmétiques The Trust Society, qui est une marketplace de produits éco-responsables. Voilà, donc on a des clients de plein d'univers, beaucoup du textile, parce qu'on a commencé par remplacer le plastique. En fait, le premier problème des déchets du e-commerce, c'est les plastiques à usage unique. Tous ces plastiques qu'on reçoit avec nos commandes textiles. Et il se trouve que le textile, c'est 50% des envois e-commerce. Donc, on a commencé par faire des pochettes souples, d'où le fait qu'on utilise des matières imperméables qui ressemblent à du tissu, pour remplacer ces pochettes-là.
Oui, parce que quand on commande dans un même carton, par exemple, trois articles, souvent chacun des articles est emballé individuellement dans un plastique.
Ouais, alors ça, c'est le problème du polybag, c'est encore un autre sujet. Ça qui est très intéressant dans les emballages, c'est qu'il faut bien voir les chaînes d'emballage pour arriver à résoudre le problème. Nous, aujourd'hui, Hop-Hop-Hop résout surtout le problème de l'extérieur, l'emballage extérieur, qui a usage unique.
Donc le carton principal.
Exactement, le carton ou le plastique principal. Ensuite, il y a le problème du polybag, ce qu'on appelle le primo-emballage. Le primo-emballage, c'est l'emballage qui est le plus près possible du produit. Donc, dans le cas du textile, souvent, il y a un plastique. C'est un polybag, ça s'appelle un polybag plastique. Ce plastique-là, il est mis par le producteur, le fabricant, et il va jusqu'au consommateur. Donc, en fait, il sert, au moment de la fabrication, à stocker les vêtements. Ensuite, il va être stocké chez le logisticien ou chez la marque. Ensuite, il arrive chez le consommateur et c'est le consommateur qui le jette. Donc ça, il y a des expérimentations de marques qui sont faites sur cette question-là d'enlever les polybags ou alors les remplacer par autre chose. Mais voilà, c'est encore un peu au stade expérimental. Nous, on s'occupe essentiellement du colis extérieur, qui a un peu d'autres enjeux.
Oui, et puis du coup, c'est aussi ce qui prend plus de place, ce qui va être peut-être plus facilement jeté, parce que du coup, on n'a pas la place de le garder. Hop-Hop-Hop, ce n'est pas que un emballage extérieur, mais c'est aussi de l'accompagnement vers de l'éco-conception d'emballage pour les clients pour lesquels le service de colis Hop-Hop-Hop n'est pas forcément envisageable ou adapté.
Exactement. Donc en fait, Hop-Hop-Hop, on part du principe que on prend les e-commerçants et les consommateurs là où ils en sont dans leur démarche de zéro déchet. C'est-à-dire que il y a des e-commerçants qui sont très engagés, et c'est beaucoup les premiers e-commerçants avec lesquels on a travaillé, qui sont prêts à mettre en place le colis réutilisable, qui vont mettre en place le colis réutilisable et qui vont avoir un très fort taux d'utilisation du colis. Donc, par exemple, on a des e-commerçants qui vont jusqu'à 50% de taux de choix du colis réutilisable. Et comme ils étaient déjà dans une démarche éco-responsable, leur alternative pour les clients qui ne choisissent pas le colis réutilisable, c'est déjà du carton ou du craft, enfin, là, c'est relativement optimisé. Après, on a des e-commerçants, quand on est en discussion avec eux, ils mettent en place l'option du colis réutilisable et l'alternative pour les gens qui ne choisissent pas l'option zéro déchet, c'est encore du plastique. Dans ces cas-là, on met en place le colis réutilisable et on accompagne aussi le e-commerçant sur ses autres emballages en disant, bon, comme ça, tu n'auras pas l'option hyper éco-responsable avec le collier à pop-up, et ensuite à côté du plastique pas recyclable ou pas recyclé. Donc on accompagne aussi dans l'éco-sourcing, on a des partenaires avec lesquels on travaille pour les produits qui ne sont pas possibles à emballer en pop-up pour l'instant, ou alors pour les consommateurs qui ne vont pas choisir l'option pop-up. Et donc on met en place des emballages éco-conçus.
Et quand tu dis que les commerçants n'ont pas choisi le colis au pop-up, c'est parce qu'il y a aujourd'hui des contenus qui ne sont pas possibles d'être mis dans un colis au pop-up.
Oui, exactement. On travaille sur le développement de notre gamme pour emballer des produits, notamment notre prochaine étape, c'est le semi-fragile. Mais on n'a pas encore une gamme suffisamment étendue pour emballer tous les produits possibles à envoyer en e-commerce. Donc des fois c'est des questions de volume, des fois c'est des questions de fragilité, des fois c'est des questions de c'est pas possible parce que c'est expédié d'un autre endroit. Enfin, des fois les chaînes logistiques des e-commerçants sont pas toujours ultra centralisées, donc voilà. Donc en fait parfois il y a des contraintes techniques où c'est pas encore possible de faire du colis réutilisable. Donc dans ces cas-là on accompagne avec de l'éco-conçu, enfin le meilleur du jetable. Voilà, c'est ça qu'on dit. Le juste emballage, le meilleur du jetable en parallèle du colis réutilisable.
C'est toujours une démarche qui va dans le bon sens. Et comment vous fonctionnez ? C'est-à-dire que vous livrez en amont une sorte de stock de colis réutilisables vers les e-commerçants, ou est-ce qu'ils commandent les pochettes au fur et à mesure des commandes qu'ils peuvent recevoir ?
Alors, donc nous, on a un système où on livre un stock. En fait, les e-commerçants, ils sont abonnés à notre service. On livre un premier stock avec une quantité de colis. Et en fait, comme on est capable de suivre les colis qui partent, on a un système de refill automatique. C'est-à-dire que quand on voit que le stock atteint un niveau trop bas, on leur renvoie automatiquement les colis. C'est calculé en fait sur leur consommation des semaines précédentes.
D'accord. Et du coup, vous leur offrez aussi une solution digitale de suivi où ces outils-là ils sont utiles pour Pop-Up, pour gérer les stocks?
Ouais, exactement. Ils ont une solution de suivi parce qu'ils voient les colis qui partent eux-mêmes. Donc, ils ont un back-office. Et sur la gestion du stock, c'est nous qui le voyons essentiellement. D'accord. En fait, ça permet de proposer aux e-commerçants un colis. Notre moto avec Pop-Up, c'est de proposer aux e-commerçants un colis réutilisable qui soit aussi simple à utiliser que du jetable. Mmh. On élimine cette contrainte du stock, donc ça veut dire que c'est encore plus simple que du jetable, parce que le jetable, il faut penser à recommander auprès de son fournisseur, etc. Il y a des systèmes internes de gestion de stock. Nous, c'est quelque chose qu'on fait à leur place. Et donc voilà, on va loin dans le service et dans l'accompagnement de la marque, à la fois sur la question du conseil pour les autres packaging, à la fois sur l'accompagnement à la gestion des colis réutilisables, l'accompagnement du consommateur aussi. C'est pas tout de créer un colis réutilisable pour qu'il soit vraiment réutilisé et que les e-commerçants aient vraiment envie de l'utiliser. Il faut qu'il y ait un service fort autour. C'est notre conviction.
Mais alors vous avez ce service de service de consigne que vous mettez en place avec le e-commerçant au moment de valider le panier et de sélectionner le mode d'expédition pour le consommateur final. Mais comment vous accompagnez le e-commerçant dans l'éducation auprès du consommateur final sur l'utilité de la consigne ? C'est vous qui mettez en place ça, ou est-ce que c'est le e-commerçant qui doit inciter le consommateur final à renvoyer son colis ?
C'est les deux, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Nous, on est beaucoup en contact avec les consommateurs qui choisissent le pop-up, on échange avec eux. Donc, on connaît un peu, on a une bonne connaissance des freins et des attentes sur les questions du colis réutilisable. Donc, on fournit des contenus aux e-commerçants, un petit kit avec différents contenus pour qu'ils puissent communiquer auprès de leurs consommateurs. Mais la marque reste évidemment maître de sa communication. Mmh. Donc, on aide, on fournit des contenus. Et ensuite, la marque communique sur le colis réutilisable. Et nous, de notre côté, dans notre communication, dans nos contenus, on explique le réemploi, l'intérêt du colis réutilisable, le pourquoi de la consigne. Ça se fait des deux côtés, en fait.
Est-ce qu'il est possible pour les entreprises de les personnaliser si elles veulent que leur emballage ou que leur produit soit expédié avec un colis au nom et aux couleurs de leur marque ?
Alors, c'est possible dans certains cas. On le fait avec... avec des engagements et des quantités, déjà des quantités minimales pour lancer des productions qui aient du sens, et ensuite avec un engagement de pérennité du partenariat, parce que si c'est pour produire des emballages réutilisables qui vont être réutilisés 3 mois, et en fait après on peut plus s'en servir parce qu'ils sont logotypés à une marque, c'est pas dans notre démarche. Mmh. Du coup, on a des options de personnalisation qu'on leur propose, différentes options selon le besoin. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut clairement envisager. Mais nous, on met un peu des conditions d'éco-conception dans l'utilisation du service. C'est un peu la même question. C'est intéressant cette question de la standardisation versus personnalisation, dans les emballages, parce que jusqu'à maintenant, le plastique, le jetable, on est allé très loin dans l'hyper-personnalisation pour les marques, parce que c'était jetable. Donc en fait, on personnalisait une fois, et ensuite ça partait à la poubelle. Il y a même des marques qui ont des colis de Noël, spécial Noël par exemple. Mm. Parce qu'en fait, ils savent qu'à la fin de la saison, au pire, ça part à la poubelle. Quand on est dans une dynamique de réemploi, on ne peut pas aller sur ce genre de terrain, parce que ce n'est pas l'objectif. Donc, typiquement dans le vin, et dans tout ce qui est boisson, comme on est en train de développer pas mal de circuits de consignes pour les bières ou le vin, enfin ça se fait beaucoup localement, ça demande une certaine standardisation pour que les bouteilles puissent être lavées et réutilisées par n'importe qui et avoir une grande durée de vie. On évite au maximum la spécificité pour aller vers de la standardisation pour pouvoir passer à l'échelle. Et ça, ça fait que dans tout ce qui est réemploi, et notamment en Alsace, il y a un gros circuit de consigne, c'est très intéressant, c'est un gros bassin qui utilise beaucoup la consigne, les bouteilles de bière sont très standardisées. Et donc, la créativité se fait sur les étiquettes qui vont ensuite s'enlever. En fait, c'est une manière, on joue plus sur la forme, on joue sur ce qu'il y a sur la bouteille.
Oui, on repense la personnalisation et un nouveau terrain d'expression des marques.
Tout à fait. Et donc, nous, c'est ce qu'on propose aux marques de faire. Le plus simple, c'est que ce soit des colis qui restent hop-hop, parce que comme ça le consommateur l'identifie, qu'il sait comment la renvoyer et que c'est identifié à un système précis, mais on permet à la marque de personnaliser avec différents outils. Et après, si jamais on peut créer un circuit qui soit intelligent de réemploi avec une marque en faisant de la personnalisation, évidemment on le fait, mais sous certaines conditions de réemploi intelligent. Alors, voilà, c'est ce que je veux dire.
Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, il y a, dans cette pochette, il y a un espace pour glisser l'étiquette à la fois d'expédition et derrière laquelle il y a l'expédition, je crois, enfin, l'étiquette de réexpédition pour retourner le produit, enfin, l'emballage pour qu'il soit consigné. Et il peut y avoir aussi, donc, soit sur cette étiquette, un espace d'expression de la marque, soit une sorte d'encoche spécifique pour une étiquette dédié à la marque. Ça peut être aussi envisageable sans pour autant avoir une pochette imprimée aux couleurs.
C'est ça, on peut imaginer un système de stickers. Il y a des choses que les marques mettent de toute façon à l'intérieur du colis. Souvent, on a un petit mot avec la marque, donc c'est aussi une manière de se distinguer, de parler à son consommateur. Enfin, voilà. Il y a plein de choses, on peut imaginer plein de choses et on a fait pas mal de choses avec des marques avec lesquelles on travaille sur ces sujets. Et puis, il y a aussi une tendance dont il faut parler, hein, c'est que dans le e-commerce, le fait de personnaliser l'extérieur du colis, ça se fait un peu de moins en moins à cause des enjeux de vol. Donc souvent, ce qui est personnalisé, c'est l'intérieur plutôt que l'extérieur. Parce que comme ça, si à l'extérieur, c'est pas écrit le nom d'une grande marque, en fait, les chances de vol sont moins importantes.
Oui, c'est intéressant aussi.
Donc voilà, les marques ont des positions différentes sur ces sujets, notamment à cause de ces enjeux-là.
Oui, clairement. Et alors, en termes de production, les pochettes, elles sont produites où ? Dans plusieurs ateliers ? Un seul ?
Ouais, elles sont produites dans plusieurs ateliers en France. Donc, on a développé notre réseau d'ateliers français. On travaille majoritairement avec des ateliers qui sont dans une logique d'insertion professionnelle. Parce que il se trouve que notre produit est très compatible avec ce genre de démarche. Et nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On croit que tous ces enjeux de production, de retraitement sur le réemploi, de logistique e-commerce, en fait, c'est des métiers qui sont déjà en croissance et qui sont très compatibles avec de l'insertion par l'activité économique. Donc si on peut avoir un impact social avec Ecopop en plus de l'impact environnemental, on en est ravis, et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur.
Oui, clairement. Mais alors, les pochettes, elles sont issues de fins de rouleaux de l'industrie textile, et donc ça veut dire qu'elles sont produites clairement dans le même atelier de ces fins de rouleaux, ou est-ce qu'elles sont acheminées vers des ateliers qui sont spécifiques ?
Les ateliers qu'on choisit sont ouverts à la démarche d'upcycling. Et ensuite, non, on récupère pas au même endroit les matières que la production.
D'accord.
On récupère en France, souvent c'est dans la même région, mais on récupère des matières à un endroit, là où elles sont, en fait, tout simplement, c'est-à-dire chez les personnes qui vont pas s'en occuper, et ensuite on les envoie dans nos ateliers partenaires. Parfois il y a combinaison, mais c'est assez rare. Donc par exemple, récemment, on a récupéré des rouleaux de tissus qui sont des fins de rouleaux, de tissus qui sont destinés à des uniformes. Donc ultra solide, déperlant, imperméable, enfin, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc c'était dans un stock en France. On les a acheminés vers notre atelier qui est en région Rhône-Alpes. Et c'est eux qui vont produire les pochettes à partir de cette matière.
Donc c'est pas à chaque fois la même matière qui constitue les pochettes ?
C'est des matières qui sont similaires, on a un cahier des charges. Mais c'est pas forcément la même source.
D'accord. Et la pochette qui est retournée une fois qu'elle a été utilisée, donc celle qui revient dans la boîte aux lettres, elle revient où et qu'est-ce qu'il en devient exactement ?
Alors nous, aujourd'hui, elle revient chez nous. On fait le retraitement nous-mêmes des colis. Ça nous tenait beaucoup à cœur sur les deux premières années de se dire qu'on gérait nous-mêmes la logistique pour être au plus près de l'activité et voir ce qui se passait avec les pochettes. Donc on les récupère, on les nettoie et on les reprépare pour un prochain cycle, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'elles ont bien une étiquette retour pour la prochaine fois, on remet un scellé de sécurité à l'intérieur, on reprépare le scellé de sécurité extérieur pour les marques, parce que ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais donc nos pochettes elles sont fermées par une fermeture et donc on sécurise la fermeture avec un petit scellé, c'est le seul élément jetable de la pochette. Donc c'est un petit scellé qui fonctionne un peu comme, vous savez, les bracelets de festival. Quand tu l'as mis, tu peux plus l'enlever. Et donc, quand le e-commerçant expédie le colis, il va fermer le petit scellé de sécurité. Et donc le consommateur va l'ouvrir, va découper le scellé. Il renvoie la pochette sans scellé, parce que comme il n'y a rien à l'intérieur, de toute façon, il n'y a pas d'enjeu. Mais par contre, à l'intérieur du colis est présent un autre petit scellé.
Ouais, pour la réexpédition.
Exactement, il y a un retour produit. Donc voilà, donc on s'assure que tous ces éléments soient bien présents pour que la pochette soit prête à son utilisation. Et ensuite, on les renvoie par paquet, en fait, au e-commerce. On massifie le retour.
Oui, bien sûr. Et les petits scellés aussi sont éco-conçus ?
Alors, pour l'instant, ils ne sont pas très éco-conçus. C'est des petits scellés en matière plastique. Donc, on demande aux consommateurs de les récupérer, de les renvoyer avec la pochette. Parce que nous, du coup, on les massifie et on les envoie à un recycleur. Parce que c'est plus facile de recycler ce genre de matière si elles sont en grande quantité. Et on travaille dessus justement pour trouver des alternatives qui soient meilleures. Alors pour l'instant ça n'existe pas, c'est un peu pénible, mais on travaille dessus.
D'accord, donc cela dit, par rapport à la taille de la pochette, c'est la toute la plus petite pièce de la pochette.
C'est minime, mais c'est pas parfait, donc on travaille dessus.
Bon, après c'est une entreprise qui est encore en construction et qui évolue constamment avec tous ces sujets là quoi.
Exactement, en fait c'est fou de se dire que il y a plein de choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus. On vient tellement dans le packaging d'une ère du tout jetable que la question de réutilisation, de recyclage, d'éco-conception, c'est quand même relativement récent. Donc, toute cette logique-là, elles sont en train de réinfuser l'industrie et donc de redonner des innovations, mais qui ne sont pas encore prêtes sur le marché, quoi, tout simplement.
Oui, mais tu sens qu'on est quand même dans une ère qui va vers davantage d'éco-conception ?
Ben, moi, je pense que oui, parce que... Alors après, il faut faire attention au greenwashing, hein. Et sur les questions de packaging, il y en a énormément. Mais c'est quand même des logiques qui commencent à... Et notamment grâce aux consommateurs, qui commencent à infuser de plus en plus les entreprises. Et notamment dans le packaging, ça devient un argument. Parce que les acheteurs sont de plus en plus sensibilisés à ces questions. Après, c'est loin d'être parfait. Hein. Et on a encore beaucoup, beaucoup de chemin sur le sujet. Mais les options sont de plus en plus nombreuses pour aller vers des choses plus éco-responsables.
Oui, en fait, c'est deux marchés qui évoluent en parallèle, je dirais. À la fois toutes les démarches d'éco-conception, de sensibilisation et puis d'innovation, comme tu le disais tout à l'heure. Et en même temps, le e-commerce qui ne cesse de grandir. Tu parlais tout à l'heure de 1 milliard de colis qui ont été expédiés en 2020. C'est énorme. Mais du coup, en fait, c'est presque un paradoxe de dire que le e-commerce peut être cet accélérateur de consommation responsable, parce que du coup, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et en même temps, c'est aussi un nombre d'achats qui ne cesse que grandir de jour en jour.
Ouais, exactement. Bah, ça, c'est tout l'enjeu et c'est tout le paradoxe. C'est que nous, chez Pop Up, on croit et on promeut une consommation qui est responsable. Et par consommation responsable, ça veut aussi dire moins acheter ce dont on a besoin. Donc, il y a un enjeu autour de ça. Après, l'enjeu aujourd'hui, il est de faire basculer les achats. Déjà, de les diminuer, bien sûr, mais surtout de faire basculer les achats vers des achats qui sont éco-responsables. On croit beaucoup que le e-commerce, ça peut être justement cet accélérateur dont tu parlais de consommation responsable, parce que c'est un outil. Le e-commerce, en soi, c'est un outil qui te permet de trouver n'importe quand le produit exact dont tu as besoin et de te le faire livrer n'importe où. Et ça évite, mine de rien, cet effet d'acheter un produit en urgence qui ne convient pas complètement à tes besoins, que tu vas finir par jeter au bout d'un moment. Donc ça a quand même cette vertu-là, et ça a aussi la vertu de permettre à des petites marques qui font les choses bien, qui vont très loin, des petites marques qui se lancent, de trouver leur marché et de vendre leurs produits éco-conçus, éco-responsables, avant d'aller sur de la production de masse et de se retrouver dans des magasins. Donc, le e-commerce peut avoir ce pouvoir-là d'accélérateur de consommation responsable, mais aujourd'hui, il n'est pas utilisé majoritairement à bon escient. Il est plutôt sur des dérives. Récemment, c'était le Black Friday. On n'a pas encore les chiffres du Black Friday 2021, mais bon, l'année dernière, c'était quand même...
Oui, c'est une incitation massive à la consommation pour des achats qui ne sont pas forcément utiles, d'ailleurs.
Mais c'est comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a une manière de les utiliser qui sont... Enfin, il y a les dérives des réseaux sociaux et il y a la manière qui permet... Enfin, il y a la partie qui permet aussi de créer des communautés, d'engager les gens, de les connecter partout dans le monde. Donc, l'e-commerce, c'est pareil. On peut l'utiliser à bon escient, on peut l'utiliser n'importe comment.
Et alors, comment vous mesurez l'impact du e-commerce sur la planète, sur l'impact carbone? Est-ce que, par exemple, vous dites, le e-commerce est peut-être moins impactant? Donc, si on prend un exemple de, par exemple, une personne qui va se rendre, qui va prendre sa voiture et faire des milliers de kilomètres pour aller chercher un produit en particulier, alors que finalement, le fait de se le faire livrer, peut-être serait moins consommateur. Enfin, quels sont vos indicateurs à vous pour suivre les chiffres du e-commerce et mesurer l'impact de Hippopop sur la réduction d'empreintes écologiques?
Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. L'impact du e-commerce, bon, c'est pas nous qui le mesurons, hein, de manière très transparente. En revanche, il y a des gens qui se penchent à la question. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites et qui montrent notamment que l'impact positif ou négatif du e-commerce dépend de là où tu habites. Si toi, tu habites en ville et que tu vas te faire livrer une marque X qui a une boutique en bas de chez toi, ça n'a aucun intérêt. Écologiquement, il vaut mieux que tu ailles dans le magasin en bas de chez toi. En revanche, si tu habites comme mes parents à la campagne et que tu veux aller acheter un produit chez cette marque X qui se trouve à 70 km de chez toi et donc que tu prends ta voiture tout seul pour aller chercher ton pull, là, le fait de se le faire livrer, c'est beaucoup plus optimisé que d'aller le chercher en boutique. Donc, la réponse sur, à titre personnel, l'impact de ma consommation e-commerce, en fait, elle dépend de ta situation. Ce qui est toujours un peu frustrant de dire ça, hein, parce que... Mais souvent, c'est ça les questions de l'impact. C'est que c'est des pensées un peu complexes et il faut réfléchir selon le contexte. Donc typiquement, ça, c'est un... Il y a des impacts différents. Pareil, si tu te fais livrer en e-commerce, en express, chez toi, ça n'a pas le même impact que si tu te fais livrer en point relais, livraison lente.
Oui.
Parce que l'impact du dernier kilomètre est très fort et que la livraison express, souvent, ça se fait par avion, surtout si le produit vient de l'étranger. Et donc, c'est un peu le pire du pire. Donc là, Noël approche. Il faut faire attention à éviter au maximum l'express, surtout sur des produits qui viennent de loin.
Et alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que la livraison express, en général, elle coûte beaucoup plus cher, ce qui se comprend aussi, parce que du coup, ça coûte beaucoup plus cher à expédier de manière rapide, parce que c'est d'autres modes d'envoi. En revanche, donc, du coup, il y a deux choses. La première, c'est qu'on n'explique pas l'impact écologique au moment du choix. Bien souvent, c'est juste, soit ça te coûte soit rien, soit 2-3 euros, soit c'est plutôt de l'ordre de 7-10 euros, mais on n'explique pas quel est l'impact carbone pour vraiment se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin sous 24 heures? Et la deuxième chose, c'est pourquoi pas surtaxer les modes d'expédition plus express, pas simplement pour contribuer au coût de l'expédition, mais simplement pour être un petit peu pénalisé pour choisir ce mode d'expédition.
Bah, bien sûr, ça pourrait être des dynamiques qui existent, mais c'est le débat... dans lequel on va peut-être pas rentrer, mais avion et train. Donc, effectivement, c'est tout l'enjeu. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi qu'au moins expliquer que l'express, ça a plus d'impact, ce serait hyper intéressant pour le consommateur, pour que ce soit plus compréhensible.
Bon, là, l'intérêt, ce serait que sur chaque site e-commerce, on puisse avoir l'option de la solution pop-up. Donc, peut-être à terme, ce serait... Et tu vas me dire ensuite quelle est la vision de pop-up, jusqu'où vous aimeriez emmener l'entreprise. Mais peut-être sur chacun des sites, ce serait l'idéal. Et peut-être à terme, que ce soit plus juste une option, mais que ce soit un système généralisé.
Exactement. Et donc, il y a plein de choses à faire autour de ça, du transport. Bon, nous, alors, en l'occurrence, on n'a pas d'impact sur le transport. Enfin, on s'occupe pas spécialement du transport de la livraison. On travaille beaucoup avec le groupe La Poste, qui fait énormément de choses sur ces questions-là, notamment sur le fait de livrer en véhicule électrique, sur l'optimisation des tournées. Nous, on utilise des offres de La Poste pour le retour, qui sont des offres lentes, l'équivalent de l'éco-pli ou des timbres verts que vous utilisez. Et en fait, comme c'est plus lent, ils ont plus le temps d'optimiser les camions et de les charger. Donc ça met un peu plus de temps. Bon, ça met 2 jours de plus, hein. C'est pas non plus très très long. Mais c'est le temps de remplissage des camions d'optimisation. Parce qu'en fait, l'express, comme la priorité c'est le timing, on n'est plus dans une optimisation, on est moins dans une optimisation d'espace, de volume. Parce qu'on est plus dans une optimisation de temps. Et c'est pour ça que c'est plus cher.
Oui, c'est que les camions ils partent, ils sont pas encore remplis.
Exactement. Et des sites e-commerce très célèbres ont des flottes d'avions qui partent à moitié vide d'Asie pour livrer en 24 heures.
Ouais.
Donc en fait, ça c'est une aberration. C'est ni un bon sens logistique, enfin, ça n'a aucun sens logistiquement. En termes de coût, ça n'a pas de sens, et en termes d'impact, encore moins. Donc voilà, donc typiquement, ça c'est une utilisation du e-commerce qui n'est pas saine. Et de quel produit on a vraiment besoin en 24 heures? En vrai de vrai?
Ouais, ça c'est une question qui serait intéressante de se rappeler à chaque fois au moment de l'achat.
Exactement. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui va faire que le e-commerce sera moins impactant. Donc il y a dans l'impact du e-commerce, il y a les déchets, il y a la question du transport, il y a la question des invendus aussi. Parce que ça, c'est un peu Black Friday, mais jusqu'à maintenant, les invendus, on avait le droit de les jeter. Et les retours produits qu'on fait, il y en a une énorme partie qui sont jetés. Alors, avec la loi économie circulaire, ça va être interdit, de plus en plus.
Oui.
Mais jusqu'à maintenant, les déchets e-commerce, je crois que c'était en 2019, si je ne te dis pas de bêtises, Amazon, ils avaient jeté plus d'1 million de produits sur l'année.
Oui, c'est dingue.
Donc voilà, c'est une catastrophe, parce que ça coûte moins cher de jeter que de remettre en circulation. Et c'est tout l'enjeu de l'économie circulaire.
Mm-mm.
Donc voilà, et donc nous, pour répondre à la deuxième partie de ta question, chez Hopopop, comment est-ce qu'on mesure notre impact? On mesure notre impact en beaucoup en ce moment en nombre de déchets évités, donc en nombre de colis qu'on évite, colis jetables évités. On mesure aussi notre impact, donc là on est en train de réaliser une étude d'impact avec la coopérative MU, qui est une agence de d'éco-conception et de mesure d'impact. Et donc on compare nos colis aux jetables sur leur durée de vie, ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. On prend toute la durée de vie de nos colis, toute la durée de vie, enfin l'équivalent en jetable, sur des hypothèses gérables bien sûr, et on voit quel impact on a sur 6 indicateurs qui sont les 6 indicateurs que l'ONU a sélectionnés comme étant des indicateurs d'impact, donc le CO2, mais pas que, l'impact sur l'eau, l'impact sur l'épuisement des ressources naturelles, enfin voilà, il y en a 6. Et on mesure aussi notre impact, vu qu'on est dans une dynamique d'upcycling, on mesure aussi notre impact au nombre de tonnes ou de mètres de tissus qu'on sauve de l'incinération avec la fabrication de nos colis.
Et est-ce que tu as quelques chiffres concrets à nous partager déjà aujourd'hui?
Alors, j'ai quelques chiffres sur l'année 2021, ça s'est pas clôturé donc je peux pas encore vous la partager, mais ça se mesure en milliers de colis, dizaines de milliers de colis. Et sur l'impact carbone et l'impact sur les six critères dont je vous parlais tout à l'heure, ça va sortir en début d'année. Donc voilà, on est en train de finaliser l'étude d'impact. Je préfère vous garder la surprise pour le début d'année pour avoir des chiffres qui sont bien carrés. Mais on a une réduction très significative d'impact versus le jetable.
Parfait. Mais dans ce cas-là, on mettra l'étude, si tu veux bien, dans les notes de l'épisode pour compléter.
Du coup.
Ouais, ok. Super, merci beaucoup. Et alors, on a parlé tout à l'heure de vision d'entreprise. Quelle est justement la vision de Popov et jusqu'où vous aimeriez l'emmener?
Nous, notre vision, c'est de contribuer à créer un monde où la consommation est plus responsable. Donc, notre rêve, c'est que ce soit aussi simple de commander en colis réutilisable et aussi normal que de prendre son tote bag pour aller au supermarché. En fait, que ce soit même pas une question, que ce soit même pas une innovation, un truc qu'on essaye, et que ce soit normal, en fait. Et que ce geste de renvoyer son colis pour qu'il soit réutilisé, ce soit le standard du e-commerce.
Un peu comme la poubelle de tri, la verte, la jaune, du coup, chacun a pris ce réflexe aussi de trier chez soi.
Exactement. Et on croit beaucoup en l'économie circulaire parce que, pour nous, c'est l'avenir. Le recyclage, c'est important. Mais si on continue à produire des déchets en masse pour ensuite les recycler, on va pas s'en sortir. Donc, plus on est dans une économie de la sobriété, de la réutilisation, du réemploi, plus moins on a d'impact et plus c'est positif. Et en plus, on croit beaucoup avec chez Hopopop que on peut faire écolo, simple et cool, en fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément un effort surhumain d'éviter des déchets, et au contraire, ça peut être très simple et très positif comme expérience. D'ailleurs, c'est marrant parce que donc nous, on a très souvent des retours d'utilisateurs. Vu qu'on envoie des mails de rappel, etc., on discute beaucoup avec les utilisateurs de Popop. Et le premier retour qu'on nous fait, c'est ultra quali comme livraison. C'est trop cool. Mon produit était super bien protégé. J'ai bien aimé cette expérience d'ouvrir ma petite pochette et de la renvoyer. Voilà, c'est le tout premier retour qu'on nous fait. Et je trouve que c'est très significatif. Ça veut dire que tu peux créer quelque chose de réemployable, mais en plus mieux que le jetable.
Ouais, qui crée en plus une expérience utilisateur ultra bénéfique, qui doit certainement aussi inciter à avoir d'autres gestes plus conscients, en tout cas, sur les gestes du quotidien.
Ouais, tout à fait. Et tu vois, je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux de la consommation responsable, c'est que la consommation responsable, elle soit aussi désirable que la consommation de masse qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi simple, aussi cool, aussi beau, aussi désirable que les produits qu'on a aujourd'hui ? Si on fait des solutions écologiques qui sont ultra compliquées, très chères et pas simples, en fait, on n'arrivera pas à faire basculer les masses vers cette consommation responsable.
Ouais, clairement, quand c'est trop contraignant, ça n'engage pas les gens. Hein.
C'est à nous, créateurs de solutions, je pense, de réfléchir aussi dans cette optique-là, de se dire comment est-ce qu'on inclut un maximum de gens en rendant ces gestes-là simples, cool et désirables.
Ouais, ça reste tout aussi agréable en plus, effectivement. Puis ça donne aussi, je trouve, le sens aux consommateurs d'agir directement, parce qu'il y a vraiment un vrai acte. Parce que c'est vrai que tout ce que tu mentionnais tout à l'heure, il y a le fait, on peut pas simplement bannir la fin de vie du produit avec le fait de jeter, mais il y a aussi la notion de consommer moins, de consommer responsable. Donc ça, c'est aussi une sorte de privation aussi de consommation, hein, pour consommer de manière vraiment plus consciente et plus nécessaire. Mais dans l'acte de réexpédier sa petite pochette pour qu'elle soit réutilisée, il y a quand même un acte concret du consommateur pour contribuer à une économie circulaire pour que la pochette soit réinjectée dans une nouvelle expédition.
Exactement, c'est ultra concret. C'est comme mettre son carton dans sa poubelle de tri.
Oui, il y a un vrai geste derrière. Ouais.
C'est un engagement du quotidien et c'est pas compliqué. Des boîtes postales jaunes, il y en a 135 000 en France. Donc il y en a forcément une pas loin de chez nous. Et effectivement, c'est nous, on a tout pensé pour que ce soit le plus simple possible. Et qu'on puisse mesurer très concrètement son impact.
Et vous êtes fixé à un nombre de e-commerçants avec lesquels vous souhaiteriez travailler ?
On s'est plutôt fixé à un nombre de colis qu'on veut éviter. Mais on aimerait éviter 1 million de déchets en 3 ans.
Waouh !
Voilà, on n'y est pas encore. Spoiler alerte. Mais on y travaille et on avance. Et plus on a de e-commerçants qui sont engagés avec nous, plus on a de consommateurs qui l'utilisent, plus ce chiffre il grandit de manière exponentielle en fait.
Quels sont les différents projets de pop-up ?
Les différents projets, ben alors là déjà, on déplace nos bureaux principaux à Lyon à partir de janvier. Donc voilà, c'est un petit move parce que c'est une région qui nous tient à cœur, dans laquelle on est déjà implanté, mais voilà, on veut se retrouver. C'est là aussi que se trouvent pas mal de nos ateliers et c'est une région logistique importante. Il y a toujours eu de la logistique en région Rhône-Alpes parce que c'est très central par rapport à l'Europe. Donc voilà, ça c'est notre premier projet. Ensuite, on développe des nouveaux produits pour emballer toujours plus de produits en colis réutilisables. Et ensuite, nos projets du moment, c'est grandir en fait. Aller faire grandir notre équipe, avoir toujours plus de e-commerçants, toujours plus d'utilisateurs, une chaîne toujours plus optimisée tout en étant la moins impactante possible. Et à l'échelle de l'entreprise, construire une entreprise qui soit juste et impactante dans toute son activité. C'est-à-dire que nous, le cœur d'activité, c'est éliminer des déchets. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir aussi un impact social ? Comment est-ce qu'on fait pour construire une entreprise, oui, juste. On est en chemin pour l'agrément ESUS, pour aller encore plus loin que le fait d'avoir une entreprise à mission. Ben voilà, pour nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est le genre de modèle d'entreprise qu'on aimerait suivre.
D'accord. Et en termes de clients, est-ce que vous comptez vous orienter vers du B2C, vers des marketplaces ?
On laisse tous les champs ouverts pour l'instant. Le fait que... J'imagine que par B2C, tu veux dire entre consommateurs ?
Oui, typiquement, on a mentionné Vinted, ça peut être aussi d'autres plateformes d'échange entre particuliers ou de vente entre particuliers. Voilà, ça peut être une idée.
On y réfléchit et c'est dans les cartons. On y travaille.
Dans les pochettes.
C'est pas là qu'est le gros de l'enjeu pour l'instant.
Oui, et puis il y a déjà tellement à faire sur les e-commerçants.
Exactement, mais bien sûr, on y réfléchit. On réfléchit, en fait, on prend le e-commerce dans sa globalité, on regarde l'impact de ses déchets, parce que c'est ça notre créneau, et on prend tous les problèmes et on va essayer de les régler un par un, quoi.
Et il y a effectivement un gros morceau à attaquer.
Exactement. Et là, on sort de 2 ans de pas mal de R&D parce qu'on a fait beaucoup de tests, on a une cinquantaine de e-commerçants, mais en fait, on a passé beaucoup de temps et d'énergie sur notre système de consigne. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le système de consigne, pour nous, il est garant de l'impact positif du colis réutilisable, et les chiffres le montrent. C'est-à-dire qu'il y a d'autres solutions qui existent sur le marché depuis un peu plus longtemps, notamment dans les pays scandinaves. Leur taux de retour, c'est 75%. Nous, avec notre système de consigne, on est à 97. Et cette différence-là, c'est l'impact positif du colis, en fait. Mmh. Parce que si on perd un colis sur quatre à chaque cycle, en fait, en moyenne, un colis, il fait 4 tours. Donc, oui. Il n'est pas aussi impactant que le nôtre qui va en faire 17, 20, plus, quoi. Donc, voilà. Du coup, on a mis beaucoup d'énergie là-dessus et on y croit beaucoup, ça marche. On a envie d'aller encore plus loin sur les sujets de consignes pour que notre système, il soit encore plus performant. Mais voilà, grandir et bien grandir. Je dirais que c'est ça.
Ouais, donc maintenant, place au déploiement.
Exactement.
Et quel est le message que toi, tu auras envie de faire passer aux consommateurs ?
Moi, j'ai envie de dire aux consommateurs qu'ils ont plus de pouvoir que ce qu'ils croient. On dit souvent que notre carte bleue, c'est un bulletin de vote qu'on a dans la poche et qu'on sort tous les jours. C'est vrai. Et moi, je peux en témoigner. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur Pop-Up et ça fait 2 ans qu'on rencontre des marques, des très grandes marques, qui nous contactent parce que leurs consommateurs ont râlé sur les enjeux de déchets.
Ouais.
Et ça, c'est ultra impressionnant et c'est assez fort, je trouve, d'être de ce côté-là et de se dire que au début, on avait juste une landing page, on se faisait contacter par des grandes marques parce que ils s'étaient intéressés au sujet, parce que des consommateurs leur en avaient parlé. Et donc cette puissance du consommateur en consommant responsable qui force les marques à se poser la question de la consommation responsable, ou qui disent à leur marque, c'est pas possible, ce suremballage, je peux pas recevoir un stylo dans un carton qui fait la taille d'une boîte à chaussures, ça aide l'effet, en fait. Pas forcément sur le coup, on le voit pas forcément tout de suite quand on envoie le message ou quand on fait remonter le sujet à la marque, mais en fait, ça a un effet. Et ça, je pense que c'est un message d'espoir qui est important, surtout quand on voit tous les sujets qui sont liés à l'écologie, qui peuvent être angoissants. L'éco-anxiété, c'est une réalité. Mmh. Il ne faut pas baisser les bras et se dire « ce que je fais, ça ne sert à rien, je ne suis qu'un consommateur ». On est tous un consommateur, un citoyen, un travailleur en entreprise. Et donc, on a tous un potentiel d'impact qui est beaucoup plus grand que ce qu'on pense.
Mmh, top. Bon, c'est aussi tout l'objectif de ce podcast, de mettre en valeur toutes les initiatives qui existent. Et puis du coup, au travers de cet épisode, dire ben ouais, il y a Hopopop qui existe pour livraison et e-commerce. Et pourquoi Hopopop ?
Hopopop parce qu'on voulait un nom qui invite à l'action, qui soit dynamique. Voilà, Hopopop, on y va. C'était un peu ça notre motto. Et Hopopop, c'est aussi le symbole des 3 acteurs sur notre enjeu, enfin sur notre activité. Hop le consommateur, hop le e-commerçant et hop nous qui allons nettoyer et remettre en circulation.
D'accord, donc ouais, déjà une vraie démarche circulaire en fait qui s'exprime dans le nom. Et alors toi, quels sont tes gestes green du quotidien ?
Mes gestes green du quotidien.
Qu'est-ce que t'aimerais nous partager ?
Mes gestes green, c'est un peu les gestes qui ont été identifiés comme étant plutôt impactants. Donc, j'essaie de manger le plus végétarien possible. Je prends moins l'avion. Enfin, je l'ai pas pris d'ailleurs ces dernières années. J'évite vraiment au maximum pour privilégier le train. Pareil, l'usage de la voiture quand on peut prendre les transports en commun, c'est mieux. Bon, moi j'habite en ville, hein, donc j'ai aussi conscience que c'est faisable. Et puis je fais attention à mes déchets de manière générale, mais alors je tiens à préciser que je suis très loin d'être parfaite, mais que je suis en chemin, comme nous tous.
Il n'y a pas de jugement dans la question.
Non, mais je pense que c'est important parce qu'on a souvent tendance à se comparer à des idéaux de zéro déchet, mais il vaut mieux qu'on soit beaucoup à être imparfaitement positivement impactant, on va dire, que quelques-uns complètement parfaits.
Oui, tout à fait. Puis chaque petit geste compte, de toute façon.
Exactement, exactement.
Et quelles sont tes sources d'inspiration ? Lecture, écoute, film, podcast ?
Un peu partout. J'avoue que j'ai moins le temps de lire en ce moment, à mon grand, mon grand regret. J'écoute beaucoup de podcasts.
Ouais, tu en as quelques-uns que tu aimerais nous citer ?
Ouais, alors j'écoute beaucoup. J'ai beaucoup écouté Génération XX. Mmh. Le podcast c'est arrêté mais quand même j'aime beaucoup un podcast en anglais qui s'appelle How I Build This qui reprend les débuts des très grandes entreprises qu'on connaît. Donc ils interrogent les fondateurs et ils leur posent la question de comment c'était au tout début. Qu'on soit entrepreneur ou pas, je le trouve très inspirant ce podcast parce que ça raconte ce que c'est les débuts d'une innovation. Le début d'une innovation qui va changer complètement son marché. Dropbox, Airbnb, etc. Et on se rend compte de plusieurs choses, c'est que c'est possible, la première chose. La deuxième chose, c'est que ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. Et c'est OK. Et voilà, je le trouve très intéressant pour ça.
Ouais, super, on la mettra également dans les notes de l'épisode.
Voilà, deux parmi tous ceux que j'écoute. Hein, mais...
D'accord, les deux peut-être les plus marquants sur le moment. D'accord, très bien. Mais écoute, merci pour toutes tes réponses. Je crois qu'il est temps qu'on passe au quiz.
Mm-hmm.
T'es prête ?
Je suis prête.
Allez, pour voyager, tu es plutôt Air France ou Blablacar ?
Blablacar. Bon, SNCF, si on est très honnête.
La réponse, c'est donc. Si tu n'as rien dans ton frigo, plutôt McDo ou Too Good To Go ?
Plutôt Too Good To Go.
Ok. Pour faire des cadeaux, plutôt Amazon ou Emmaüs ?
Plutôt Emmaüs.
Le lundi, chez toi, c'est plutôt Steak Frites ou Veggie Monday ?
Plutôt Veggie Monday.
Ok. Et enfin, avant de t'endormir le soir, plutôt Netflix ou un bon bouquin ?
J'essaye un bon bouquin.
Dans l'idéal. Parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Charlotte, pour cette discussion autour du e-commerce et des emballages, la contribution des emballages à la réduction de l'impact écologique du e-commerce. Et puis, effectivement, pour toutes les discussions qui sont liées à chaque acte du consommateur et en quoi Hopopop peut contribuer finalement à un monde meilleur et à ce que chacun puisse agir en conscience et contribuer à réduire ensemble le flot des emballages qui continue de fleurir tous les jours.
Eh ben merci. Merci à toi de mettre en lumière des solutions. Merci à toi de m'avoir donné la parole. Et merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'ici.
C'est parfait. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous souhaite une très belle journée.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcasts, ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter, je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaireteo20.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prends soin de vous.